France Inter.
Le reverse aging, c'est quelque chose de majeur que nous avons lancé avec Dior. On a un âge chronologique et on a un âge biologique. L'âge chronologique, c'est l'âge que vous avez, vous ne pouvez pas changer, vous avez l'âge sur votre carte d'identité. L'âge biologique, c'est l'âge que vos cellules impriment. Et cet âge-là, il est variable. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible.
C'est la pub de Dior pour ses cosmétiques anti-âge. On est même sur une promesse de retour en arrière, le miracle du rajeunissement. Ça s'appelle le reverse aging. Est-ce que c'est le secret du propriétaire Bernard Arnault? En tout cas, 76 ans aujourd'hui, et pas prêt de lâcher les manettes. À la prochaine Assemblée Générale, dans un mois, son groupe LVMH va proposer de repousser l'âge limite du PDG de 80 à 85 ans. Ses 5 enfants travaillent pour l'empire familial depuis des années, mais visiblement, la succession n'est pas encore mûre. L'exemple n'est pas isolé. L'an dernier, Soprasteria, c'est du conseil informatique, a modifié ses statuts. Le patron et fondateur, comme Bernard Arnault, a 89 ans. Il peut désormais rester aux commandes jusqu'à 94 ans. CAC 40 toujours, chez Accor, les actionnaires sont aussi appelés dans quelques semaines à changer les règles pour permettre à Sébastien Bazin de piloter l'entreprise jusqu'à 68 ans. Et pensons également à Maurice Lévy, qui n'a vraiment lâché les manettes de Publicis qu'à 82 ans. Attention, il reste président d'honneur. Et dans les plus petites sociétés alors, les PME, les ETI, eh bien il y a 20 ans, 5% des patrons avaient plus de 66 ans, ils seraient désormais plus de 12%. Il y a quelques exceptions, bien sûr. Chez Vinci, Xavier Huillard, 70 ans, s'apprête à passer la main. Chez Veolia, le sexagénaire Antoine Frérot a transmis le flambeau à la quinquagénaire Estelle Brakianoff il y a 2 ans. Au bout d'une longue période, expliquait-il, on se renouvelle moins dans les idées. Le cheveu gris, c'est ça, moins d'audace, moins d'endettement, moins d'innovation, moins de performance, c'est le risque. Mais alors, Covid, guerre? Guerre commerciale, le monde de l'entreprise semble penser que ça n'est pas le moment de changer de capitaine. Et dans le monde politique, le mouvement a été encore plus radical. À Matignon, le trentenaire Gabriel Attal a laissé la place à des septuagénaires. Là, on n'a pas de reverse, on a juste de l'aging.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Mais on aime tout le monde, hein. Trentenaire, septuagénaire, bien sûr, quinquagénaire. Allez, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Ici, l'équipe est au complet. Valentin Pérez, Étienne Bertin, Hélène Biziot, Emma Bouvier, Élise Christophe signent les mixages et Laurent Baudouin nous accompagne à la technique. L'invité de ce samedi 15 mars, c'est la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin. Alors Fitch a maintenu la note de la France hier soir, mais les appréciations sur le bulletin ne sont pas très encourageantes. On va en parler. Comment résoudre notre équation budgétaire de plus en plus acrobatique? Interview vers 9h40. Et zoom sur cette dépense publique vouée à augmenter, la défense. Comment est-ce qu'on peut augmenter la cadence dans les usines? Comment payer les commandes? Comment mobiliser les financements privés? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Et la vie au boulot alors? Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Ce samedi, Sandrine, vous répondez à 2 questions. La première de Jérôme et la seconde d'Ambre.
Oui, la première, a-t-on le droit d'écouter de la musique au bureau? Et la seconde, doit-on dire tu ou vous à ChatGPT?
Ouais, moi aussi j'ai besoin des réponses. On se retrouve dans une grosse demi-heure, Sandrine. Mais d'abord, l'actualité, la guerre commerciale depuis cette semaine n'est plus seulement une menace. Première passe d'armes entre les États-Unis, l'Europe, le Canada, la Chine. Nous allons décrypter tout cela avec Béatrice Mathieu. Salut Béatrice.
Bonjour à tous, bonjour Alexandra.
Vous êtes journaliste à L'Express et avec nous également Anne-Sophie Le Chevalier. Hello Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra.
Journaliste au quotidien Libération, vous suivez les dossiers économiques. La guerre commerciale, peut-on encore arrêter cette escalade? C'est notre débat.
Donald Trump, président des États-Unis.
Ça serait super que le Canada devienne notre 51e État chéri. Ainsi, les gens là-bas paieraient moins de taxes. Et d'ailleurs, quand on regarde la frontière, cette ligne artificielle, on dirait qu'elle a été tracée à la règle. Et si en plus du Canada, on ajoute le Groenland, alors ce serait magnifique.
Ces tarifs imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium parlent de 25 %. On avait évoqué 50 % hier, mais finalement, ça s'est replacé.
Les Américains veulent nos ressources, notre eau, notre territoire.
Mark Carney, premier ministre du Canada.
Notre pays. Ça va détruire notre façon d'être.
Que les Américains ne s'y trompent pas. Qu'il s'agisse de commerce ou de hockey, le Canada vaincra.
L'augmentation de 25% des droits de douane sur l'acier et l'aluminium est entrée en vigueur entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux.
Mao Ning, directrice du département des informations au ministère chinois des Affaires étrangères.
La Chine a toujours pensé que le protectionnisme ne ferait aucune issue et que les guerres commerciales et tarifaires ne faisaient pas de gagnants. Les actions des États-Unis violent gravement les règles de l'OMC et endommagent le système d'échange multilatéral réglementé.
Donald Trump remet une pièce dans les tensions commerciales avec l'Union européenne. Il promet de taxer à 200% les vins et spiritueux européens si Bruxelles ne retire pas ses taxes sur le bourbon américain.
C'est une guerre idiote, comme toutes les guerres d'ailleurs.
Éric Lombard, ministre de l'économie.
Mais si on veut pouvoir négocier avec lui, il faut qu'on se mette à armes égales. Donc on va aussi monter les tarifs. Ils ont taxé à 25% l'acier et l'aluminium européen. Nous avons répondu. Ils répondent à nouveau. Ça s'est passé comme ça il y a 8 ans. J'ai parlé avec le secrétaire au commerce. Ça s'appelle Howard Lutnick, on a convenu qu'on était d'accord sur rien.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
Tariffs are taxes.
Les droits de douane sont des taxes. Ils sont mauvais pour les entreprises et pires pour les consommateurs. Ils perturbent les chaînes d'approvisionnement. Ils sont source d'incertitude pour l'économie. Des emplois sont en jeu. Les prix augmentent. Personne n'a besoin de cela. Ni dans l'Union européenne, ni aux États-Unis.
Nor in the United States.
Et comment le film va finir? Je me tourne vers vous, Anne-Sophie Le Chevalier, du quotidien Libération. Aidez-nous, parce que c'est comme dans un western, ça a tiré dans tous les sens cette semaine. Faites-nous le film.
Alors, il y a eu en effet beaucoup d'effets d'annonce et de revirements. Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis mercredi dernier, donc le 12 mars, c'est une date importante, puisque c'est celle où les droits de douane à 25% sur l'acier et l'aluminium, ainsi que sur les produits dérivés, sont entrés en vigueur pour les pays du monde entier. Aucune exception. Ça vise particulièrement le Canada, qui est le principal exportateur de ces matières premières aux États-Unis. Mais tous les pays sont concernés. Il a été un temps évoqué de ne pas concerner l'Australie. Et en fait, c'est tout le monde.
Il y a juste le Mexique, je crois, qui a été suspendu pour un mois.
Hein, alors, cela, donc déjà, la Chine avait été la première cible.
Ouais.
En février, ils ont eu des droits de douane passés à 10% sur les produits importés. Et ils sont passés à 20% début mars. Donc la Chine, rappelons-le, c'est le pays avec le plus grand excédent commercial avec les États-Unis. Ensuite, le Mexique et le Canada. Donc là, c'est les plus grands partenaires commerciaux. Donc ils sont touchés, si vous avez suivi, par l'acier et l'aluminium. Mais ils auraient dû être touchés par une taxe de 25% sur la quasi-totalité des produits importés aux États-Unis. Et c'est ça, en fait, Alexandra, qui a d'abord été annoncé. Ça a été en vigueur pendant 2 jours. Et ensuite, ça a été repoussé à nouveau, suspendu jusqu'au 2 avril.
Ah, voilà.
Donc voilà un peu l'état de ce qui existe si on ne prend pas en compte toutes les déclarations sur les réseaux sociaux.
Béatrice, Mathieu, il y a eu des ripostes.
Alors voilà, il y a eu des ripostes. Alors si on regarde celle de l'Europe, donc à l'annonce de la hausse de 25% sur l'acier et l'aluminium, l'Europe a dit finalement nous on va refaire ce qu'on a fait en 2018, puisque cette histoire, c'est pas une histoire nouvelle, puisque lors de son premier mandat, en juin 2018, il avait déjà imposé des droits sur l'acier et l'aluminium européen. Il avait fait une deuxième salve en 2020 et l'Europe avait répondu en mettant à l'époque des droits de douane sur un certain nombre de produits, genre le jus d'orange de Californie, les Harley Davidson, le bourbon du Kentucky, etc.
Les États républicains.
Donc aujourd'hui, il y a une réponse de l'Europe en deux temps. Un premier temps qui a été annoncé par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui est on va finalement laisser s'éteindre les suspensions, parce que quand Biden était arrivé, finalement les droits de douane que l'Europe avait mis en place, eh bien on les avait suspendus. Donc là, eh bien on avait le revolver chargé, c'est ça que vous êtes en train de me dire.
Voilà, si je garde mon idée,
on a même besoin de rien faire parce que ça se réapplique automatiquement au 1er avril.
Et là, le deuxième temps, à partir du 13 avril, là, il va y avoir des contre-mesures, hein, c'est le terme employé par la Commission, sur toute une série de produits à hauteur de 18 milliards d'euros. Ce qui fait que les contre-mesures plus les mesures qui existaient déjà, on a un total de 26 milliards, en fait, de produits qui devraient être taxés, sachant que les États-Unis, eux, les droits de douane qui s'appliquent seront sur 28 milliards. Ouais, donc il y a 2 milliards d'écart.
C'est calibré.
Quoi.
Alors, on ne sait pas encore exactement ce que ça vise. On a une liste qui a été publiée par l'Union européenne. Donc, c'est un document de 99 pages avec autant de produits qu'on connaît ou pas, très détaillés. Donc, ça va du rasoir électrique au couteau à beurre, au milieu de ça, le whisky, les lentilles de contact, le calvados même, et les vins de Bourgogne. Et en fait, cette liste, elle est indicative. Là, à partir de maintenant, les États membres de l'Union européenne font le tri, regardent avec chaque filière si ça leur pose problème ou pas, parce qu'il faut voir aussi qu'il faut faire attention à ce que ces contre-mesures, ça ne nous fasse pas plus de mal à nous qu'aux États-Unis. Donc, ils regardent par exemple s'il y a un seul client américain pour toute une filière, c'est peut-être pas intelligent de mettre des droits de douane plus ou moins prohibitifs. Donc, c'est tout ce travail-là qui sera fait jusqu'en avril. Et ça, justement, ça a aussi fait monter la tension avec Trump.
Voilà. Et alors, après le troisième temps, c'est le 2 avril, où là, c'est la guerre mondiale. Puisque c'est.
Commercial, pardon, c'est tous les auditeurs qui prendraient l'émission en route.
Ouais. Voilà. Puisque Trump appelle ça les taxes réciproques. Alors là, qu'est-ce que c'est que les taxes réciproques? En fait, il va regarder secteur par secteur et pays par pays. Et donc, il va regarder sur tel secteur et avec tel pays si les droits de douane du pays en face ne sont pas équivalents, en fait, aux droits de douane que pratiquent les États-Unis. Eh bien, il met les droits américains au droit, au niveau des droits qui sont pratiqués dans le pays en face. Et là, donc là, il y a 17 000 produits qui seraient touchés, en fait, par cette réciprocité des droits commerciaux.
Un petit mot juste pour savoir, la France, on peut être très touchée. Anne-Sophie.
Alors, oui, parce que... Enfin, oui et non. Alors, dans un premier temps, c'est pas notre partenaire principal et on est beaucoup, beaucoup moins exposé que d'autres pays en Europe. Par exemple, l'Allemagne. Si on regarde les exportations allemandes vers les États-Unis, c'est à peu près 3,8% de leur produit intérieur brut. Nous, c'est 1,6. Et la moyenne pour l'Union européenne, c'est 2,8. Donc ça donne une idée. Mais il y a non seulement les effets sur les filières elles-mêmes. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que avec ces mesures contre mesures, Trump a écrit sur son propre réseau social Truth Social jeudi que puisque c'était comme ça, il envisageait de taxer les vins, les champagnes, les produits alcoolisés. Et tenez-vous bien, 200%. Donc c'est énorme. En fait, ça revient à tripler le prix. Donc ça, il y a les effets sur les filières. Donc là, effectivement, par exemple.
Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est en masse, en moyenne, on n'est pas le partenaire qui sera le plus touché, mais il y a des filières qui risquent de souffrir plus que d'autres.
Ça. Et en plus, on prend les mesures qui aura par ricochet, on va aussi souffrir des mesures qui sont imposées aux autres, notamment à la Chine et au Canada, puisqu'il y aura un afflux de marchandises vers nous. Et enfin, surtout, on risque d'être aussi particulièrement touché aussi sur notre propre activité et sur toute la croissance. On n'a pas encore de calcul, puisqu'on ne sait pas exactement sur quoi ça va tomber et tout ça. Mais ce qu'on peut déjà dire, par exemple, on a vu la Banque de France cette semaine, ils ont réussi à commencer à chiffrer l'incertitude. Donc là, ils disent l'incertitude actuelle, sans prendre en compte les effets des mesures, des dernières mesures, c'est à peu près une croissance qui est retranchée de 0,1 point de PIB. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est qu'un début, en fait.
Ça paraît l'épaisseur du trait, mais c'est parce qu'on ne voit pas encore assez loin.
Vu la situation de nos finances publiques, ça a des impacts, évidemment. Ça peut avoir des impacts sur le déficit.
Alors ça, c'est nous. Mais, Béatrice Mathieu, on a Tesla qui a écrit au ministère du Tesla, donc l'entreprise d'Elon Musk, qui écrit au ministre du Commerce américain. La lettre n'est pas signée, mais ils disent oulala, oulala. Donc les Américains commencent aussi à s'angoisser.
Bien sûr, les Américains commencent à s'angoisser parce que l'économie américaine américaine, là, est aujourd'hui menacée de récession. La Federal Reserve d'Atlanta, en fait, a un modèle économétrique qui est assez sophistiqué et qui, a fait peur, en fait, à tout le monde il y a quelques jours, puisque ce modèle dit qu'il y a aujourd'hui 40% de chances que l'économie américaine tombe en récession et même 50% de chances si cette réciprocité dont on parlait tout à l'heure est vraiment mise en place, surtout les échanges mondiaux. Il y a de nombreux économistes américains et notamment ceux de grandes banques américaines qui disent effectivement que les risques de récession s'accentuent considérablement. Il faut voir en fait que cette politique de Trump, on pourrait pointer toutes les incohérences en fait, mais il y a énormément d'incohérences par rapport aux promesses qui ont été faites aux Américains et la réalité. Moi, je voudrais juste pointer deux petites cohérences, on pourrait en pointer plein. Quand il dit, par exemple, en fait, que l'augmentation des tarifs douaniers, c'est aussi au cœur de sa politique fiscale, puisqu'il dit avec les recettes qu'on va avoir de l'augmentation des tarifs, on va pouvoir baisser les impôts. Il justifie ça aussi en disant que les entreprises étrangères vont relocaliser ou vont amener leur activité aux États-Unis. Sauf que si les entreprises étrangères amènent leur activité aux États-Unis, il n'y aura pas de recettes de taxes douanières puisqu'elles seront aux États-Unis. Ouais. Donc, grosse incohérence. La deuxième, je fais très très vite, c'est drill baby drill. Donc, il faut pomper énormément d'énergie fossile. Et en même temps, il dit, il promet aux Américains que les prix de l'essence vont diminuer et il a un objectif en fait de ramener les cours du pétrole en dessous de $50. Ce $50 le baril, en fait, c'est un niveau qui, compte tenu des coûts de production des pétroliers américains, est très faible. Donc ça ne les incite pas, en fait, à faire du drill, baby drill. Deux petites incohérences.
Les incohérences. Anne-Sophie, une dernière question. Est-ce qu'on peut arrêter cette escalade? Et est-ce que ce sont les Américains eux-mêmes qui vont peut-être dire à Donald Trump de l'arrêter?
Alors, en tout cas, on commence à avoir des signes. Alors, effectivement, les indicateurs économiques dégringolent pas tous. Néanmoins, hier soir, on a quand même une chute de la confiance des consommateurs américains. Ensuite, il y a la guerre commerciale qui les inquiète, mais aussi peut-être beaucoup les suppressions d'emplois dans les agences fédérales. Il faut avoir aussi en tête. Là, il y en a 7 nouvelles. Il a annoncé ce matin qu'il y en a 7 nouvelles qui allaient être visées. Et donc, finalement, tout ça crée une atmosphère économique pas du tout favorable aux États-Unis. Et la corde de rappel, on peut l'espérer, c'est Wall Street. Et cette semaine a été très très chaotique. Tous les indices boursiers n'ont pas arrêté d'être chahutés. L'indice a été particulièrement fort. Alors, pour l'instant, l'administration Trump dit oui, c'est de la volatilité et tout ça, mais on peut imaginer que ça risque de leur poser problème à la fin quand même. Et puis, le cas de Tesla est vraiment emblématique, vous le disiez. Donc, il y a cette lettre envoyée par Tesla en disant les contre-mesures, nous, ça nous affecte et il faudrait peut-être un peu réfléchir en fait avant de faire
d'autant
ça.
D'autant que l'Europe a encore des cartouches, n'est-ce pas?
Hier, le fonds d'investissement, il y a un fonds de pension danois qui a blacklisté Tesla en disant nous on arrête parce qu'on a l'impression que l'entreprise va dans le mur et que ça abîme la marque et sa valeur. Donc on voit bien que ça va finir par poser des problèmes. Alors en face, les mesures de rétorsion, ça a l'air de marcher. Et puis l'Europe en face a une réponse unie et la consigne c'est que parce que leur cible aussi c'est l'Europe et c'est d'avoir une réponse unie et d'avoir et qu'il n'y ait pas de dissension et qu'il n'y ait pas de vote en guerre.
Ouais, peut-être qu'on est à ce moment épidermique et qu'ensuite ça pourrait se calmer autour de moi, Béatrice, Anne-Sophie, je vois on ne sait pas. Allez, disons-le.
Calmer Trump, ça va être difficile.
On ne sait pas. Anne-Sophie Le Chevalier et Béatrice Mathieu, elles ont fait le débat du Mag'Éco ce samedi 15 mars. (9h32 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité dont n'arrête pas l'écho, c'est la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin. Alors Fitch maintient la note de la France, mais doute de notre capacité à faire baisser le déficit. Comment compte faire l'exécutif pour le faire baisser ce déficit à un moment où la croissance est revue à la baisse et tout en finançant une dépense qui va augmenter plus vite que prévu? C'est la défense. Dassault, MBDA, Airbus, Naval Group, Safran, on connaît les grands groupes industriels. Il y a aussi des milliers d'entreprises de taille intermédiaire et puis des PME. Ces industriels, ils ont déjà augmenté leur cadence ces deux dernières années. L'exécutif les appelle à accélérer encore. Est-ce possible? À quelles conditions? Avec quel argent? Eh bien, ce matin, nous sortons du studio pour retrouver notre reporter Anna Elverzo en Essonne, au sud de Paris, à Limours exactement. Voici le site de production de radars militaires de Thales.
Et on rentre dans le hall Faraday. C'est un très grand atelier, comme un grand hangar. Il y a des personnes là qui sont en train de travailler. Et il y a des radars, mais qui ressemblent absolument pas aux radars qu'on a l'habitude de voir sur l'autoroute. En fait, ça ressemble à des tanks, un peu. Il y en a 4.
Ici, les techniciens procèdent à un certain nombre de réglages extrêmement précis. Ces radars-là sont faits pour détecter des cibles, avions, missiles, drones, etc., à des centaines de kilomètres. Un petit écart au niveau du radar dans son montage pourrait avoir des conséquences importantes sur la précision de mesure de cette cible à 350 km.
Et il faut combien de temps pour en produire un radar comme celui-là?
Sur un cycle comme dans cet atelier, c'est à peu près un mois.
Et à côté de vous, il y a un de vos collègues. Bonjour, Anaël.
Éric Hubert, et je dirige l'activité radar de surface pour le groupe Thales.
Combien de radars vous produisez ici sur ce site?
On en a produit 28 en 2024. On travaille tous les jours pour augmenter nos cadences de production. Déjà l'année dernière, on a multiplié notre capacité de production par 3 par rapport à 2023. Et cette année, on va franchir encore une nouvelle marche pour être capable de multiplier notre production par 3. On recrute beaucoup. On a recruté 400 techniciens et ingénieurs sur le site de Limours l'année dernière. Une part significative de la valeur ajoutée de nos radars est réalisée par des PME françaises. Et on travaille main dans la main avec elles parce qu'elles aussi, elles doivent tripler leur production. Il y a de nombreux problèmes pratiques qui se posent tous les jours, des manques de pièces, des manques de machines. Et on travaille ensemble pour résoudre au quotidien tous les problèmes qui se posent.
On vient de sortir du hangar et là il y a des radars qui sont en fonctionnement.
On se dirige vers la zone de test finale par laquelle passent tous nos radars après la production. Donc là vous voyez deux radars qui sont déployés en cours de test. Un GF-300 là, qui tourne très rapidement parce que c'est un radar de guidage de missiles, de conduite de tir qui a besoin de beaucoup de précision.
Et donc quand ces radars sont déployés, ça ressemble davantage à des radars tels qu'on les connaît, mais en beaucoup plus grand.
À peu près 5 mètres.
Ça tourne assez vite. Hein.
Le radar de conduite de tir, là, c'est un tour par seconde.
Voilà, ça fait ce son, là. Ces deux dernières années, Thales a recruté 9000 personnes en France dans les métiers de la défense pour pouvoir accroître ses capacités. Tous les industriels de l'armement pourront-ils relever ce défi ? Ce qu'ils attendent en premier lieu, disent-ils, ce sont des commandes.
Il y a des conférences.
Cette semaine, ils se sont réunis à Paris, à l'école militaire, pour le Forum de la Défense et de la Stratégie. La bibliothèque de l'école militaire, le Centre d'études stratégiques aérospatiales. 3 jours de conférences avec des intervenants de toute l'Europe. Un événement inauguré par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.
On le voit bien, la période, elle est nouvelle. Je crois pouvoir dire que nous ne sommes pas en guerre, mais enfin pour autant, nous ne sommes plus en paix.
C'est ici que, entre deux conférences, j'ai rendez-vous avec le général Duquesne, délégué général du GICAT.
Alors, le GICAT, c'est une association d'industriels. Nous avons 400 industriels qui composent cette association, plus 80 start-up du domaine terrestre et aéroterrestre.
Est-ce que les industries françaises sont en capacité de produire plus ?
Alors, dans le domaine qui est le mien, je ne parlerai pas pour le domaine aéronautique ou naval, mais pour le domaine terrestre, s'il y a des commandes, parce qu'une industrielle ne peut produire que s'il y a des commandes, s'il y a des commandes, nous sommes capables de pouvoir accélérer et produire plus actuellement.
Jusqu'à combien plus ? Est-ce qu'on a une idée ?
Nous avons eu une grave crise dans les années 2022 de manque de matériaux, de manque de composants électroniques, etc. C'est toujours difficile, mais on y arrive maintenant de mieux en mieux. Nous avons le problème des ressources humaines. La guerre des talents est aussi, je dirais, quelque chose que nous connaissons dans l'industrie de défense. Et puis, in fine, les chaînes de production, écoutez, elles existent, elles peuvent être encore optimisées. On peut multiplier par deux les productions pour bon nombre d'équipements.
Et financièrement, est-ce qu'il y a suffisamment de budget pour ces industries de l'armement ou... Parce qu'à un moment donné, vous aviez fait un appel aux banques qui trouvaient que c'était pas suffisamment stable pour elles. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques acceptent de vous prêter de l'argent ?
Alors, ça a été un gros travail que le GICAT a fait maintenant depuis 2019. Actuellement, la vraie difficulté que nous rencontrons, c'est surtout dans à partir des fonds d'investissement qui appliquent de façon peut-être un peu brutale des critères ESG, environnemental, sociétal et de gouvernance, qui excluraient la défense dans les financements. C'est une interprétation que nous estimons fausse, hein, car pour une raison très simple, il ne peut pas y avoir de durabilité sans sécurité. Donc la défense a toute sa place dans les critères ESG, et d'ailleurs je crois que au niveau de l'État, il y a une grande convergence dans ce domaine.
Pour en parler, les industriels étaient justement reçus à l'Élysée hier, et jeudi prochain, ils participeront au sommet du financement de la défense, organisé par Bercy et le ministère des Armées. L'occasion de faire le point sur les besoins et les pistes de financement. Les banquiers assurent qu'ils seront au rendez-vous. Thierry Laborde est le directeur général de BNP Paribas.
L'accompagnement du secteur de la défense, notre position est très claire. Comme celle, je le crois vraiment, de toutes les banques françaises, c'est d'accompagner les PME, les ETI de la défense française. Nous sommes chez BNP Paribas, par exemple, en relation avec un tiers de ses clients. D'ailleurs, nous leur avons accordé à fin 2024 24 milliards de crédits. Et nous les accompagnons en financement, mais aussi en fonds propres, pour 200 millions de fonds propres. Et le doublement ou le triplement de taille de ce secteur qui va se profiler, hein, se fera de manière totalement fluide en termes d'accompagnement par les outils bancaires.
Que pensez-vous de l'idée qui circule en ce moment dans le milieu politique d'utiliser les fonds des livrets A et des livrets LDDS pour financer ce secteur de l'armement ?
Pour moi, c'est vraiment la mauvaise réponse à un vrai problème. La bonne réponse, c'est investir plus en bourse. Si ce secteur, parce qu'il aura plus de commandes publiques, améliore ses performances financières, il sera plus attractif pour les investisseurs. D'ailleurs, chez BNP Paribas, on travaille aujourd'hui à un fonds, une solution d'investissement qui puisse répondre aux enjeux de souveraineté européenne. Pas seulement de la défense, mais des enjeux de souveraineté européenne, il y en a beaucoup. Il y en a dans les paiements, il y en a dans la santé. Et on travaille à cette proposition de valeur avec beaucoup de demandes de nos clients en banque privée qui nous demandent. Ça, c'est un phénomène nouveau qui date de quelques semaines, d'allouer leur épargne beaucoup plus vers l'Europe et moins sur les États-Unis.
De l'argent privé, des commandes publiques. À l'Assemblée, mercredi, les députés ont d'ailleurs voté une résolution pour la saisie des avoirs russes. SAC, devra-t-on aussi travailler plus ? 36 heures par semaine, propose la CPME. Ou songer à décaler l'âge de départ à la retraite, comme le suggère le MEDEF. Camille Grand est l'ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, chargé des investissements de défense. Il est aujourd'hui chercheur au Conseil européen pour les relations internationales.
Alors, on est dans un moment où il y a effectivement un choix de réinvestissement dans le domaine de la défense. Ça suppose des arbitrages, mais pas forcément des arbitrages monstrueux. Je ne crois pas que ça mette en péril le modèle social français ou les grands équilibres de notre budget. C'est un effort qui est nettement inférieur à, par exemple, celui qu'on avait fait au moment de la crise du Covid, même s'il devra sans doute être davantage soutenu dans la durée. Alors, je ne pense pas qu'on doive renoncer à notre modèle social, à nos pensions de retraite ou à notre système de santé. En revanche, il est clair que la part de la dépense publique consacrée aux dépenses sociales est aujourd'hui d'à peu près un tiers du PIB, est en concurrence avec les dépenses régaliennes, au moins indirectement. Donc il y a un débat sur quel est le meilleur moyen de continuer à financer un modèle social assez coûteux, tout en mobilisant des ressources pour tout ça. Un chiffre pour illustrer mon propos. En 1938, les dépenses sociales représentaient 1% du PIB et les dépenses militaires 8%. Aujourd'hui, ce ratio, c'est 33% et 2%. Donc on est dans quelque chose où on est allé très loin pour favoriser les dépenses sociales. Par exemple, la politique du logement, elle coûte à peu près aussi cher que le budget de la défense. Donc est-ce que, dans quelle mesure, est-ce qu'il faut réfléchir à une meilleure utilisation des deniers publics. Un pays comme la Suède, qui n'est pas exactement réputé pour avoir un modèle social pas généreux, arrive à avoir à la fois doublé son budget de la défense, conservé l'un des deux niveaux d'endettement les plus bas de l'Union européenne et un modèle social généreux, social-démocrate.
Assurer notre défense, avec quel argent ? C'était le reportage d'Anna Elverzo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
L'invité d'On n'arrête pas l'écho est la ministre aux comptes publics. Bonjour et bienvenue Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Alors on va commencer avec l'actualité de la nuit, l'agence américaine Fitch qui maintient la note de la France. Il y avait quand même une perspective négative, un vrai risque de dégradation. Quel est votre sentiment ce matin ?
Ça montre d'abord qu'il faut qu'on soit vigilant, mais vous savez, la signature de la France sur les marchés, c'est d'abord la marque de sa souveraineté financière. Le mot, je pense, qui nous agite tous en ce moment, c'est notre souveraineté. Comment on est moins dépendant, comment on est plus fort en tant que pays, comment on est plus fort en tant que continent. Et ben, la souveraineté financière, c'est la responsabilité qui est la nôtre quand on est ministre du budget, ministre de l'économie, ministre des finances. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit, quoi qu'il arrive, dans des temps incertains, quoi qu'il arrive, faire face, nous financer, trouver les moyens de notre puissance. Et donc la signature de la France, la note qu'on reçoit de ces agences, qui ne sont pas des notations absolues, c'est une notation, il y en a même plusieurs.
Non,
vous
mais
voyez.
C'est un indicateur pour les investisseurs.
Mais ça nous dit quoi ?
Voilà, ça dit que pour l'instant, ils croient encore à la soutenabilité de la dette, mais les appréciations sont négatives.
Et ça nous dit donc qu'on doit avoir une très grande vigilance, qu'on doit être en alerte, et que cette souveraineté financière, la protéger, l'améliorer, c'est tout aussi important que de garantir notre souveraineté géopolitique, notre souveraineté stratégique. C'est la mission qui est la mienne. Et voilà, comme je vous le disais, comment en tant que grande puissance, quoi qu'il arrive, on est capable de faire face aux changements, de faire face à nos obligations et de faire face à nos nouvelles priorités.
Bon, on va faire le tour de cette équation budgétaire avec vous qui devient un peu acrobatique. Il paraît que vous regardez tous les soirs à quel taux s'endette la France. Alors en ce moment, c'est très haut, c'est 3,6% à 10 ans. Il y a aussi la croissance revue à la baisse par la Banque de France. Il y a la guerre commerciale, on en a parlé en début d'émission. Est-ce que le budget voté avec tant de difficultés il y a un mois, le PLF 2025, n'est pas déjà caduque ?
Pas du tout. Pas du tout. Le Premier ministre a pris un engagement. C'est celui de nous mettre résolument sur la pente du désendettement. Désendettement parce que, je vous le disais, la souveraineté financière, c'est un objectif crucial. Le but de toute notre politique, c'est que nous soyons effectivement sur cette pente de désendettement et que notre déficit soit réduit. On a l'objectif de 5,4%. Nous sommes, là aussi, en train de faire quelque chose d'inédit parce que la manière d'atteindre ce budget, ça a été un compromis inédit. Ce qui va être inédit, c'est que dès le tout début du mois d'avril, nous allons faire acte de transparence, comme nous ne l'avons jamais fait, avec les parlementaires, avec les Français, avec les collectivités locales, avec les caisses de la sécurité sociale, pour que nous ayons, dès le mois d'avril, une vue très claire sur là où en est la croissance, là où en sont nos recettes, donc les impôts, comment on est financé, là où en sont nos dépenses, et que nous puissions faire de manière absolument transparente les ajustements nécessaires pour qu'on tienne nos objectifs.
Donc vous pensez déjà aux ajustements. L'équation, elle est en train de se compliquer. Vous savez déjà qu'il faudra, si vous tenez à cet objectif de 5,4 de déficit l'année prochaine, vous savez déjà qu'il faudra geler encore des crédits ?
Non, ce que je vous dis, c'est que, vous savez, la vie se passe rarement comme on l'écrit dans les prévisions. Il y a des aléas, il y a des choses qui se produisent. Là, on a un aléa, vous voyez, sur la défense, mais il y a d'autres aléas. Mayotte, notre capacité à faire face à Mayotte, la Réunion, notre capacité à faire face à la Réunion, les aléas climatiques, les aléas agricoles, il y a des aléas. Je vous ai dit, le quoi qu'il arrive, c'est quoi ? C'est de dire, voilà, on se met en condition de tenir nos objectifs, pas parce qu'on a une lubie, mais parce que c'est la clé de notre crédibilité et surtout, c'est la clé de notre objectif prioritaire qui est celui de sortir du surendettement, celui de réduire notre déficit.
5,4 cette année.
Parce que c'est comme ça qu'on se redonne la capacité de faire des choix. Et on veut le faire avec cette transparence. Pourquoi ? Parce que moi, au fond, la mission que je me suis fixée, c'est d'arriver à réconcilier nos finances publiques avec la démocratie. Avec des choix qui soient transparents, des choix qui soient assumés, des choix qui puissent faire l'œuvre de compromis, et que donc nous sortions d'une pratique qui était soit de dire « bon bah c'est foutu », on n'a qu'à laisser le déficit filer, qui n'est pas un acte de responsabilité, soit de faire des choix tout à fait sérieux, mais au fond qui étaient faits un peu en chambre, et qui étaient faits par une vision, j'allais dire, de l'État qui n'était concerné que par lui-même. Là, vous savez, la dépense publique, ça concerne tout le pays.
Mais donc, 5,4%, c'est quoi ? Les ajustements, donc vous dites début avril, on va regarder la situation. S'il y a des ajustements, et j'ai le sentiment que vous êtes en train de nous dire qu'il y en a, vous savez déjà.
Je peux vous dire ce qu'on est en train de faire.
Oui.
On met de l'argent en réserve. Et je tiens à montrer aux Français et à l'ensemble des acteurs de la dépense publique comment on met de l'argent en réserve, sur quel poste on met de l'argent en réserve, comment cette réserve on veut aussi la mobiliser le cas échéant. On a aussi beaucoup d'outils budgétaires sur lesquels il faut qu'on rende les choses transparentes. Pourquoi je vous parle de transparence ? Parce que si on n'a pas cette transparence dans ce moment politique particulier, nous n'aurons pas les conditions du compromis qu'il faudra avoir aussi pour le prochain budget. Et les conditions du compromis, c'est essentiel. Donc moi, voilà, je vous disais, je veux réconcilier les finances publiques avec la démocratie. Je veux aussi réconcilier les finances publiques avec notre capacité à rester un pays pleinement souverain. Donc comment on se redonne des capacités de choix ? Bon, comment on remet les priorités ? Comment, au fond, on se dit qu'on est un grand pays, qu'on a des moyens publics qui sont importants, et comment on peut réallouer les choses, là aussi, en transparence ? Vous savez, le monde a changé.
Réallouer, justement, on va parler, oui, Amélie de Montchalin, on va parler des réallocations. Alors, réallocation, une dépense publique qui va augmenter, la défense. On a Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui nous dit, aujourd'hui, le budget de la défense, c'est 50 milliards, le poids de forme, c'est 100 milliards à partir de 2030. Est-ce que c'est votre objectif à Bercy ? Est-ce que c'est à arbitrer ?
Non. Les choix sur l'accélération de la programmation militaire, c'est des choix qui seront pris par le président de la République, avec évidemment ensuite le Premier ministre et les ministres. Ça fera l'objet d'un débat parlementaire. Et moi, je suis la ministre qui doit rendre les choses possibles. On a des grandes priorités, il faut les rendre possibles. Je vais pas
alors, est-ce que c'est possible ?
Mais tout est possible. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est d'entendre les débats honnêtement stériles et assez lunaires qu'on a depuis quelques jours, comme s'il fallait choisir entre l'hôpital et la défense. Ben, je vais vous faire un scoop. En France, on va être un grand pays et on aura et un hôpital fort et une défense forte. Et comment ?
Alors justement, vous avez, je vais dire pour les auditeurs, à LFI, Manon Aubry dit « ça va être la guerre contre nos acquis sociaux ». Chez les écologistes, Marine Tondelier dit « l'exécutif a dit sans s'endetter plus, sans impôts, ça veut dire qu'on va refaire encore plus d'austérité ». Est-ce qu'elles ont vraiment tort ?
Non mais, si on considère que faire des choix c'est dans l'austérité, alors dans ce cas-là, on ne parle pas la bonne langue française et on dit des choses qui n'ont pas de sens. Je pense que les Français voient bien que le monde change. On a des priorités aujourd'hui sur la défense. On a des priorités sur la transition écologique. On a un certain nombre d'éléments, je pense par exemple à la lutte contre la désinformation ou le risque cyber qui apparaissent comme des nouveaux enjeux, des nouvelles priorités. Soit on se dit que la dépense publique, elle est figée, qu'on ne peut jamais la réinterroger, qu'on ne peut jamais remettre les moyens qu'on a en tant que société face à nos priorités.
Mais ça, c'est ce qu'on fait à chaque PLF, à chaque budget.
Ça s'appelle l'impuissance. Si on dit qu'on n'est pas capable de faire des choix, si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur l'essentiel, si on n'est pas capable de le faire de manière transparente, ça s'appelle l'impuissance. Et vous savez qui attend l'impuissance ? Les extrêmes. Ils attendent qu'une chose, c'est que nous ne soyons pas capables en tant que pays, en tant que démocratie, de nous mettre d'accord sur l'essentiel.
Il semble que oui, le débat est plutôt sur où allez-vous faire les choix. Le débat est-ce que à chaque fois, c'est regarder la dépense qui est la plus importante, c'est la dépense sociale.
Mais
là que sont fléchées les critiques.
Le Premier ministre, je pense que c'est important que les Français le sachent, a demandé à tous les ministres de reprendre quelles sont les priorités, quels sont les moyens qui sont alloués. Où est-ce qu'on peut faire de l'efficacité, parce que peut-être les Français attendent moins de telle ou telle politique ou attendent les choses différemment. Je vous donne un exemple. On a recréé les maisons France Service. Les maisons France Service, c'est de la proximité pour les Français partout dans le pays. Ça coûte beaucoup moins cher que les réseaux ou les idées qu'on avait auparavant. Ça marche beaucoup mieux. Il y a aujourd'hui, c'est un très grand gain de service public. Et je peux vous dire que pour l'État, c'est une politique publique qui, à la fois, ne coûte pas très cher et pour autant qui marche très bien. Quand on a fait France Connect, qu'on a permis aux Français d'accéder aux services publics pour beaucoup moins cher, de manière beaucoup plus efficace, c'est à la fois du progrès et de l'efficacité.
Donc vous êtes en train de dire qu'on ne va pas appauvrir l'hôpital ni l'école. Vous êtes en train de dire n'ayez pas peur pour le modèle social. C'est ça que vous êtes en train de dire.
À l'hôpital. Il y a des sujets sur lesquels on peut évidemment faire des gains d'efficacité, des économies. Négocier mieux le prix des médicaments. Moins prescrire des médicaments qui fonctionnent moins que les autres. Vous gagnez beaucoup d'argent et vous n'avez pas fait d'économies sur le dos de la santé en général des Français. Ce que je veux vous dire, c'est que si on considère qu'on ne peut faire aucun choix, que tout est figé, au fond qu'on serait impuissant, Là, oui, on fait gagner les extrêmes et on perd ce qui est pour moi l'essentiel de notre souveraineté, c'est d'être capable de faire face. De faire face quoi qu'il arrive, de remettre nos moyens en face de nos priorités. C'est l'exercice qu'a lancé le Premier ministre. C'est un exercice qui est nécessaire parce que sinon, la dépense publique, elle n'est pas guidée par les priorités, elle est guidée par l'habitude. Or, le monde a changé.
Le monde a changé.
Je vous ramène il faut qu'on remette en question nos habitudes.
Je vous ramène à la défense, Amélie de Montchalin. Là, on a parlé de l'argent public qui pouvait aller à la défense. Il y a aussi l'argent privé. Il y aura même une réunion jeudi prochain à Bercy. Ça a été la foire aux idées ces derniers jours sur le livret A, l'assurance vie, peut-être un livret dédié. Et puis, il y a ces inquiétudes de certains Français, même qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le gouvernement va vous piquer votre argent de livret A pour financer des canons.
Alors, je veux ici vraiment remettre les choses un peu au carré. Il y a deux questions de financement. Il y a un financement budgétaire. Quel est l'effort que, en tant que pays, on doit financer pour nos armées? Ça peut être de l'argent soit national, soit européen. Il y a aussi des choses qu'on va faire entre pays européens. Ça, c'est la question budgétaire. Et puis, la question, vous l'avez très bien montré dans votre reportage, de comment on finance les industries défense, les PME ou les plus grandes entreprises qui ont des commandes qui arrivent et qui doivent augmenter leur production. Et là, on parle donc de financement privé. Et là, il est question, effectivement, de se dire, bah, ça, c'est plutôt de l'argent privé, donc c'est plutôt l'argent des ménages, l'argent des investisseurs. Comment ça va vers la défense? Et c'est là que je veux dire quelque chose de très important. Il n'y a aucun projet de confiscation de l'épargne des Français. Nous n'allons pas exproprier les Français, nous n'allons pas prendre leur argent et leur dire de force, que vous le vouliez ou non, vous allez vous retrouver investisseur de telle ou telle entreprise de défense.
Mais notre vous avez question, vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux?
Je le vois, et d'ailleurs ça montre une chose très, très importante, c'est que l'ingérence, la désinformation, crée beaucoup de doutes, mine notre unité nationale.
Elle vient d'où?
Vous savez, des grandes campagnes, en ce moment, il y en a qui viennent notamment de la Russie. Je ne sais pas sur ce sujet-là d'où ça vient, mais ce que je sais, c'est que dans tous les pays européens aujourd'hui, la désinformation, elle cherche à miner notre unité. Pourquoi? Parce que notre première puissance, notre première capacité à faire, c'est d'être un pays uni. Donc quand vous commencez à mettre dans les têtes que l'État, de manière cachée, va prendre votre argent, évidemment, vous minez l'unité nationale.
Donc qu'est-ce que vous allez faire?
Qu'est-ce qu'on veut faire? On va regarder de quoi les entreprises ont besoin dans le secteur de la défense. Est-ce qu'elles ont besoin de prêts? Est-ce qu'elles ont besoin de fonds propres? Est-ce qu'elles ont besoin de capacité à produire plus? Est-ce qu'elles ont besoin de capacité à peut-être travailler plus en tant que groupe européen plutôt que petites entreprises, qui françaises, qui italiennes? Donc d'abord, on va regarder leurs besoins. Ça se passe le 20 mars. Sébastien Lecornu et Éric Lombard réunissent tous les industriels de la défense, les petits, les grands, les moyens.
Et l'argent privé, il viendra d'où? Et c'est ma dernière question.
Et en face, vous aurez les professionnels de la finance. L'argent privé, il peut venir par l'assurance vie. Il peut venir par des outils que les assureurs, les gestionnaires d'actifs peuvent organiser. C'est leur métier, mais c'est le choix des Français.
Mais ça sera les Français qui ont beaucoup d'épargne. Hein. Ça sera et pas monsieur et madame tout le monde. C'est ça si que vous êtes en train de me dire.
Mais si dans votre assurance-vie, vous décidez que sur les 10 000 euros d'épargne que vous avez quand vous êtes un retraité, que vous avez constitué votre épargne de toute votre vie, vous voudriez mettre ça au profit d'entreprises qui sont rentables, qui ont évidemment des taux de rendement intéressants qui sont dans le secteur de la défense, que vous puissiez le faire. Aujourd'hui, je tiens à le dire, ce n'est pas très répandu, c'est même très confidentiel, parce qu'aussi depuis des années, on a considéré qu'investir dans la défense, c'était exclu du périmètre d'investissement parce qu'on avait ces règles d'exclusion, notamment au nom des règles de responsabilité des entreprises. Ça aussi, ça doit changer.
Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Je vous remercie aussi.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Sandrine Foulon, notre auditeur Jérôme, est correcteur dans une maison d'édition. Il écoute de la musique en travaillant. Son employeur dit que ça n'est pas bon pour la concentration. Est-ce que son patron a le droit de lui couper le son?
Alors, deux fois non, Jérôme. Le code du travail ne dit rien sur la musique au travail. Votre responsable ne peut pas vous empêcher d'écouter votre playlist au bureau. Et non, la musique ne nuit pas à la concentration. Des chercheurs de l'université de médecine de Stanford ont montré tout l'inverse. Ils ont étudié des personnes qui écoutaient des symphonie classique, eh bien, ça aide le cerveau à faire le tri dans le monde chaotique qui l'entoure. Voilà donc une solution tout indiquée, Jérôme, pour survivre et même réussir à travailler dans la jungle de l'open space. L'étude ne dit pas si un morceau de métal produit le même effet que la Traviata, mais on peut se dire qu'il vaut mieux privilégier des rythmes lents, des morceaux plutôt sans paroles, ou en tout cas qu'on ne comprend pas et qui ne donnent pas envie de chanter à tue-tête. La musique réduit le stress, mais le cerveau n'est pas non plus multitâche. Vous, Jérôme, vous écoutez vos chansons préférées au casque, mais si vous créez un trouble manifeste dans l'entreprise en imposant vos goûts musicaux aux autres, là, votre employeur serait en droit de vous demander de jouer les DJ ailleurs. Pareil, si votre emploi répond à des exigences de sécurité ou en lien avec le public, infirmière, pilote de ligne, chef de chantier, on les imagine mal, la musique à fond dans les oreilles.
Seconde question pour vous, Sandrine Foulon. Ambre, elle travaille dans un cabinet d'architecte. Et alors là, sa question est un peu étrange, mais on adore aussi. Est-ce que pour travailler avec ChatGPT ou avec le chat, il faut vouvoyer ces systèmes d'IA conversationnels? Est-ce qu'ils sont entraînés pour comprendre la politesse?
Alors, il y a deux écoles. Les collègues qui écrivent « Bonjour, pouvez-vous me rédiger un texte en 8 points pour la présentation de lundi ?» Merci. Et il y a la team « Fais-moi 10 lignes ». Évidemment, Ambre, même si l'IA donne parfois l'impression qu'un humain est à votre écoute, il n'y a personne au bout du fil. Pour aller plus vite, vous pouvez faire l'économie des « bien cordialement », vous aurez quand même des réponses. Ceci dit, oui, il y a un intérêt à se montrer urbain avec une IA. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs de l'université de Waseda au Japon. Les formules de politesse ont un effet sur la qualité des informations données. Il ne faut pas non plus en faire trop, apparemment, la flagornerie, ça ne marche pas. Tout ça est normal, les grands modèles conversationnels sont entraînés sur le langage humain. Et puis au fond, aboyer des ordres à une machine, c'est s'entraîner soi-même à ne pas respecter les gens, surtout quand il s'agit ensuite de leur écrire des mails en vrai. Donc, merci Ambre de nous rappeler qu'il faut conserver un minimum de civilité dans ce monde de brutes.
Et merci Sandrine Foulon, ma vieille boulot.